Alors, il y a 20 ans, jour pour jour, la planète en entier se préparait pour le bug de l'an 2000, c'est-à-dire la catastrophe épouvantable, la fin du monde. Policiers, banquiers, fonctionnaires, tout le monde était nerveux à l'approche du passage de l'année 1999 à l'an 2000. Ce qu'on comprend, c'est que nos ordinateurs n'avaient pas la mémoire qu'ils ont aujourd'hui. Donc, les techniciens qui les fabriquaient avaient juste indiqué deux chiffres. Et puis ça donnait l'année, point. Il n'y avait pas de 1900. C'était en 93 ou en 71. Fait que tout le monde avait peur qu'une fois rendu en 2000, ça fasse 0-0, puis que les ordinateurs se croient en 1900. Et puis que même les avions qui fonctionnaient avec des ordinateurs allaient tous crasher. En tout cas, c'était... Et puis finalement, il s'est pas passé grand-chose, je crois. On a avec nous Bruno Guglielminetti, que j'ai connu dans le temps un petit peu à Radio-Canada. Il est animateur du podcast Mon Carnet, consultant en communication numérique. En 2000, il était chroniqueur Internet et nouvelles technologies à Radio-Canada. Et il était en cellule de veille à Radio-Canada à l'époque. Salut Bruno!
Salut!
Ça va? Il me semble, j'ai-tu rêvé? J'ai fait une émission de radio. Étais-tu réalisateur aussi?
Oui, ben oui, tout à fait.
Ah, t'as fait ça un bout, hein?
Oui, ben j'ai fait ça 23 ans.
Bon. Quel souvenir tu gardes là, de ce passage-là à l'an 2000?
Ben écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, on dit ben il ne s'est rien passé, sauf que pendant 7 ans, les grosses boîtes d'ingénierie et d'informatique travaillaient parce qu'ils voyaient le mur arriver. Et c'est parce qu'il y a eu des centaines de millions, pour pas dire de dizaines de milliards, qui ont été investis qu'il n'y a finalement rien qui s'est passé. Mais moi, je me souviens, je l'ai couvert peut-être 7 ans. J'ai commencé à m'intéresser peut-être 7 ans avant que l'an 2000 arrive. Puis au départ, c'était tout ce qui était système financier. Alors, toutes les banques, toutes les monnaies à travers le monde ont remis à jour leur système. Puis effectivement,
tu fais un chèque qui risque de ne pas passer en 1900.
Ben, c'est ça le problème. Parce que ce que ça faisait, tu l'as bien expliqué, mais c'est juste que les gens qui faisaient des programmes informatiques à cette époque-là, puis à partir des années 70, eux autres, ben, comme ils étaient limités dans le nombre de codes parce que ça manquait d'espace à l'époque, ce qui n'est plus le problème aujourd'hui, ben, ils résumaient ça au 0-0. Donc, le soir du 31 janvier, ben, plutôt une minute plus tard, là, à minuit, ben, plutôt que tomber à l'an 2000, ça tombait en l'an 1900. Fait qu'imagine-toi les systèmes bancaires ou même si tu es dans un avion puis tu t'en viens quelque part puis ton ordinateur de bord te dit ben on a encore le temps, il y a 100 ans avant qu'on arrive.
Puis c'est pas juste ça, il y a 100 ans, tu n'existes pas, fait que on descend.
Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est ce type d'histoire-là que finalement, ben tous ces investissements-là ont valu la peine parce que c'est rien passé. Mais je me souviens, moi, à l'époque, le gouvernement canadien avait investi 2,5 milliards de dollars pour remettre à neuf tous ces systèmes. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'était Bernard Drainville qui avait fait un reportage en direct du Centre de suivi et de la coordination de l'an 2000. Puis là, tu avais une gang de spécialistes qui étaient enlignés devant des ordinateurs beige de l'époque.
Bernard n'était pas politicien du tout, il était journaliste dans ce temps-là à Radio-Canada.
Oui. Oui. Tout à fait, il était journaliste de terrain, donc il était à la colline parlementaire à Ottawa, puis il surveillait ça de son côté. Moi, j'étais à Montréal, puis je regardais aussi, j'étais en lien avec les gens de l'UQAM qui avaient une cellule de veille, et on regardait comment ça allait se faire à travers la planète. Là.
Tu dis qu'ils ont investi quand même beaucoup pendant les 7 ans précédents, l'an 2000, ça je ne savais pas. Moi, ma compréhension de la chose, parce que je me suis pas tellement renseigné, moi, je suis pas geek du tout, donc des ordinateurs, je retiens ce qui me sert, donc en studio pour écrire ces choses-là, mais en dehors de ça, je suis vraiment nouille. Alors, explique une nouille. Moi, j'ai cru que effectivement, il pourrait avoir une catastrophe, puis j'avais l'impression qu'il y aurait rien, mais ma perception était basée sur rien. Fait quand il s'est rien passé, je dis bah oui, c'est ça, je le savais bien, je m'en doutais, mais il y aurait pu se passer des catastrophes s'ils n'avaient pas investi tant.
Ben oui. Ben c'est comme le même principe de quand ils font, je sais pas moi, un film puis un cascadeur, puis ils mettent un énorme matelas plein d'air en bas pour amortir sa chute. Ben si t'as pas le matelas, le cascadeur, il est mort, puis c'est fini, là. Donc, tout le monde s'est...
Oui, effectivement, ça prend le matelas, je suis bien d'accord.
Fait que là, mais bon, là, je veux bien croire, dans tout le travail qui a été fait, c'était un peu comme le coussin pour amortir la chute, mais t'as donné une idée, parce que j'ai, évidemment, avant de te parler, j'ai été revoir dans mes souvenirs, puis je me souviens que à un moment donné, il y avait eu, en 1997, Il y avait une étude qui avait été faite. Ils avaient pris 500 ordinateurs des PC, là, et là-dedans, il y en avait 47 % qui ne passaient pas, qui ne fonctionnaient plus après l'an 2000. Donc, le soir du 31 décembre, là, ben, quand on mettait dans leur, on simulait dans l'horloge de l'ordinateur, puis quand ça tombait à 2000, ben, oups, ça ne marchait plus.
Alors, ça, c'est angoissant, ça.
Ben oui. Fait que là, à un moment donné, tu sais, puis ils ont démontré ça, de regarder, là, voulez-vous que votre système informatique ait ce problème-là? Non. Évidemment, pour monsieur, madame, tout le monde, ça n'aurait pas changé grand-chose chez eux. Mais dans les systèmes bancaires, dans les systèmes de transport, dans les systèmes de, tu sais, tout ce qui est informatisé, parce qu'on l'est aujourd'hui, ben, ça aurait eu quelque chose. Puis la bonne affaire de ça, c'est qu'évidemment, heureusement, on a appris de ça, notamment maintenant, ben, les gens qui font des programmes, des applications pour les téléphones, les tablettes ou nos ordinateurs, ben, ils s'assurent de mettre les quatre chiffres de l'année. Mais c'est sûr que si on perdure comme race humaine et qu'on passe au 9999, ben là, il va y avoir un problème parce qu'ils vont devoir mettre les systèmes à jour s'il y a encore des vieux systèmes qui ont été écrits à notre époque.
Oui, on s'entend qu'on a le temps de se préparer un petit peu.
Aussi.
Alors, 20 ans plus tard, on est en 2020 dans quelques heures, là. Comment ça se passe du côté numérique? Parce que la révolution est arrivée numérique. Moi, je peux te le dire, par exemple, musicien, on travaille dans des studios qui nous coûtaient 200-300$ parce que juste une console de son pour mixer les sons leur coûtait à peu près 300 000$. Imagine-tu les paiements qu'il y avait à faire avec ça. Puis soudainement, avec des ordinateurs, ça coûtait même pas le dixième du prix et encore moins le vingtième du prix. Alors, ça a changé beaucoup de choses, moi, dans ma job, mais ça a tellement changé pour tout le monde. Internet a changé... tout ça, les médias sociaux, il s'est passé de quoi en 20 000? En 20 ans, il s'est passé énormément de choses. Puis c'est une évolution qui ne s'est pas faite en ligne droite. C'est exponentiel. L'évolution se fait de plus en plus rapidement. Fais-moi un tour de 20 ans rapidement. Ça dit, bon, prends ton temps, là. T'as 5-6 minutes, là, relax. Mais je veux entendre d'un expert. Parce que moi, je suis monsieur, madame, tout le monde pour les ordinateurs. Fait que moi, je vois pas tout le progrès.
Mais tu sais, pour l'anecdote, là, puis ça va être drôle parce que c'est la première fois, je pense que je le raconte, on a toujours l'impression que la première industrie qui a été malmenée par l'arrivée de l'Internet, puis l'échange de fichiers, puis le piratage, ça a été l'industrie du disque, mais c'est pas vrai. La première industrie, c'est la première fois que je raconte l'histoire, ça. La première industrie qui a eu du mal à partir avec l'Internet, c'était l'industrie des patrons de couture. Parce que les premiers fichiers qui sont faits à grand nombre, là, puis où il y a eu un impact, c'était les fameux, ramenez-vous, là, il y a 25 ans, là, il y avait des patrons qui se vendaient dans des magazines où on achetait les, ben, pas moi, parce que je ne fais pas de couture, mais moi, je me souviens, ma mère achetait des patrons dans des magasins, puis après, elle faisait des vêtements à partir des patrons. Ça a été la première chose qui a été piratée. Alors, l'industrie de la confection des patrons pour les vêtements, ça a été la première victime. Mais évidemment, c'est ça. Ce dont on se souvient beaucoup plus, ça a été l'impact que ça a eu sur la musique.
Ben, moi, c'est pas juste la musique, c'est que je suis très, très peu haute couture. Fait que j'ai pas vu ça passer, moi. J'ai pas vu ça passer. Mais maintenant, c'est tout le monde. On s'entend. Oui. C'est le cinéma, toutes les industries, même le commerce de détail. Je veux dire, Amazon est en train de tuer tout le monde. Toutes ces industries-là. La musique, ben, maintenant, on sait que si on sort un disque, il est gratuit. Je m'excuse, c'est comme ça que ça marche.
Oui, et les artistes font de l'argent avec les concerts qu'ils donnent, puis avec les ententes qu'ils font sur le merchandising quand il y en a, puis les spectacles ou les prestations dans les médias, c'est là où ils peuvent avoir des revenus. Mais toutes les industries ont été impactées. À l'heure actuelle, le seul domaine qui n'est pas encore impacté, mais ça s'en vient, c'est probablement ce qu'on appelle le concert en direct, là, en personne, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des vrais concerts. Mais à un moment donné, avec la réalité augmentée, avec les castes de réalité, de VR que vous mettez sur la tête, ben il y a des gens qui vont pouvoir aller voir des pièces de théâtre en restant assis dans leur salon.
Parce que là, c'est du vrai 3D. Oui. Ça va faire bizarre, parce que quand tu donnes un spectacle, c'est la réaction de la foule qui t'anime qui fait que tu donnes un 10 fois meilleur show que s'il n'y avait personne. Puis là, tout d'un coup, ils ne sont pas là.
Oui, mais il va probablement avoir... Là, ce que ça va permettre, c'est que ça arrive assez souvent qu'il y a des artistes qui font des concerts dans des salles, puis on pourra remplir un petit peu plus. Ben là, les gens qui peuvent pas se déplacer, peut-être que le concert va être donné dans un endroit, puis virtuellement, il va être accessible ailleurs dans le monde.
J'en connais plusieurs artistes qui sont même des Facebook Live maintenant. Ils diffusent leur show pendant, avec un son qui est un petit peu moyen, on s'entend. Tu n'as pas le temps de mixer trop.
Ah, tout à fait. Mais tu sais, je regarde, quand on parle d'impact positif ou négatif, c'est hier, il y avait des chiffres qui sortaient sur le fait, hier ou avant-hier, qui sortaient sur que le fait que 2019 a été la troisième meilleure année depuis les années 60 dans le domaine du cinéma, pour les salles, pour les films. Ben ça, on a tous dit que l'Internet avait tué le film parce qu'il y avait du piratage, que Netflix avait tué les salles de cinéma. Ben non. Si on arrive à créer...
Ben, c'est parce que je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Je crois que ça va venir. C'est que, tu vois, la raison pour laquelle ça a tué les disques, c'est-à-dire les revenus des disques, c'est que quand tu fais un film, c'est très cher. Donc, ça te prend une chaîne d'investisseurs. Donc, tu as Téléfilm Canada, la SADEC, puis admettons Radio-Canada ou TVA, qui vont en dernier le diffuser à TV. Et puis, quand ils avaient fini, tant qu'à mettre le film dans l'entrepôt, ils l'envoyaient à Netflix, qui passait des films qui étaient datés maintenant, qui avaient tout été exploités.
Ah, mais
c'est comme ça qu'ils se sont rendus riches. Mais maintenant, ils produisent eux-mêmes. Alors là, ils font concurrence, là.
Oui, mais ils font travailler aussi des gens de l'industrie.
Oui.
Quand je regarde des équipes de tournage, il y a des acteurs qu'on voyait nulle part, puis là, ils sont ressuscités dans les productions de Netflix. Je trouve ça intéressant. Les équipes de tournage, on peut juste penser, bon, c'est malheureux, ça a fini en queue de poisson, cette histoire-là, mais House of Cards, ça faisait travailler 5000 personnes dans une municipalité en banlieue de Washington pendant plus de 5 ans. Tu sais.
Il y a une économie qui est reliée. Oui, je comprends.
Mais, dans ce sens-là.
Mais si je te disais ça, c'est parce que le fait que le film, d'abord, avant de se rendre sur l'équivalent des plateformes comme Apple et puis tout ça pour la musique, le film avait une vie en salle et à la télé et tout ça avant. Nous autres, la musique, ça n'a aucune vie en salle ou quoi que ce soit. La musique, elle s'en va direct aux médias. C'est pour ça que nous autres, on n'a plus de... Moi, j'en prépare un disque, puis je me fais demander régulièrement « Pourquoi tu fais ça? » Mais tu sais, perdre de l'argent, je dis « Pourquoi tu le fais? » Je dis « Ben, parce que c'est ça que je sais faire. » J'ai autant de fun à en faire qu'avant, mais je sais que maintenant, je le donne. Puis écoute, si ça roule un peu, je vais peut-être faire des choses. On est obligé de fonctionner comme ça. Mais il y a des gens, justement, comme Apple, les autres plateformes, qu'eux autres, tu regardes leurs actions, on monte en bourse, ils font de l'argent avec ça, eux. Fait que c'est pas que la musique n'a plus de valeur. C'est que c'est juste ceux qui se mettent riches, là, c'est dans la distribution.
Tout à fait. Mais
même pour tout, là, je parle pour l'alimentaire, tout, c'est les distributeurs qui font le gros cash tout le temps.
Ah ben, tout à fait. Puis dans le monde de l'Internet, on parle peu de eux parce qu'on parle toujours du GAFA, là, de Google, Microsoft, Facebook, Apple et compagnie. Mais je m'excuse, les belles Vidéotron, Rogers de ce monde, ces gens-là, on paie quand même un bon montant si cet argent-là... Et il ne revient pas nécessairement aux ayants droit. Tu sais, il y a un combat à faire de ce côté-là aussi.
Oui. Ouais. Mais écoute, il y a quand même une... Puis quand je te dis que c'est exponentiel, moi, je pense qu'il va y avoir... tu sais, on a des débats de société à avoir là-dessus, mais il va falloir accélérer les débats de société parce que les progrès vont encore accélérer. À un moment donné, on n'aura plus besoin de rien ni de se déplacer. Écoute, Bruno, merci beaucoup d'avoir fait le tour entre 2000 et 2020. C'est le fun de se parler au moins une fois aux 20 ans. Fait que je te souhaite... On se parlera du prochain bug dans 20 ans. Merci, Bruno.
Merci l'invitation.
C'était Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast Mon Carnet, consultant en communication numérique. Puis en 2000, il était chroniqueur Internet, nouvelles technologies à Radio-Canada et réalisateur sur une couple d'émissions à laquelle j'avais participé. Dans quelques minutes, je parle à une famille qui fait actuellement le tour du monde, puis eux autres, ils viennent juste de défoncer l'an 2020. Eux autres, c'est passé. Après la pause.